Chapitre 2. Une seule chose menaçait leur bonheur, sa jalousie. Jalousie qu'elle refoulait, ne montrait pas, mais dont elle souffrait souvent. Non seulement Eugène ne pouvait aimer personne, parce qu'il n'existait pas au monde de femme digne de lui, était-elle digne de lui ou non, cela elle ne se le demandait jamais, mais parce que pas une femme ne pouvait oser l'aimer. Tout allait bien, ils vivaient à la campagne, seuls. Même la belle-mère, qui troublait un peu leur calme, était partie. Seule Marie Pavlovna, avec laquelle Lise était particulièrement amie, venait et restait chez elle des semaines entières. Leur vie était des plus heureuses et des plus douces. La besogne d'Eugène marchait admirablement. La santé de Lise, malgré son état, était excellente. Le lien entre les époux se resserrait de plus en plus, sans que rien n'y vînt mettre obstacle. Leur vie était réglée de la façon suivante. Eugène se levait toujours de très bonne heure et se rendait au champ ou à l'usine. Vers 10 heures, il venait prendre le café servi sur la terrasse où l'attendait Marie Pavlovna, un oncle qui demeurait chez eux, et Lise. Après une conversation souvent très animée, pendant le café, on se séparait jusqu'au dîner, et chacun s'occupait à sa guise, soit à lire, soit à écrire, soit à quelque autre affaire. Ensuite, on faisait une promenade à pied ou en voiture. Le soir, quand Eugène revenait du bureau, on prenait le thé. Très tard, parfois, on faisait une lecture à haute voix. Lise travaillait ou faisait de la musique, ou on causait quand venaient des amis. Quand Eugène s'absentait pour ses affaires, chaque jour il recevait une lettre de sa femme. Parfois elle l'accompagnait et c'était particulièrement gai. Pour leur fête, à lui ou à elle, on réunissait des invités et c'était plaisir de voir comment elle savait tout arranger de façon à ce que tout le monde soit content. Il voyait et entendait que tous admiraient sa jeune et charmante femme, il l'en aimait encore davantage. Tout allait bien. Elle supportait facilement sa grossesse, et tous deux, bien que craintivement, commençaient à faire des projets sur la manière d'élever le futur bébé. Le mode d'éducation, les méthodes, tout cela était décidé par Eugène. Elle-même ne désirait qu'une chose, agir selon sa volonté. Eugène se mit à lire beaucoup de livres de médecine et déjà se promettait d'élever son enfant selon toutes les règles de la science. Naturellement, il y souscrivait et était prêt à tout. Ainsi arriva la deuxième année de leur mariage, leur deuxième printemps. C'était la veille de la Trinité. Lise était enceinte de 5 mois, et bien qu'elle prît beaucoup de précautions, elle était gaie et se remuait beaucoup. Les deux mères, celle de Lise et celle de Gênes, qui vivaient chez eux sous prétexte de veiller sur Lise, ne faisaient que l'ennuyer par leurs querelles. Eugène s'occupait avec une ardeur particulière d'une nouvelle culture en grand de la betterave. À l'approche de la Trinité, Lise avait résolu de procéder au nettoyage de fond de la maison qu'on n'avait pas fait depuis Pâques. Et pour aider à ses domestiques, elle fit venir 2 femmes de journée pour laver les parquets, les fenêtres, les meubles, battre les tapis, mettre les housses. Le matin, de bonne heure, les femmes vinrent préparer les seaux d'eau et se mirent au travail. L'une de ces 2 femmes était Stepanida, qui venait de sevrer son petit garçon et qui, car un employé s'était fait demander, elle voulait voir de près la nouvelle dame. Stepanida vivait comme auparavant, sans son mari, et faisait des frasques comme autrefois avec le vieux Danilo, qu'il avait surprise une fois volant du bois, ensuite avec le maître, puis avec le jeune employé du bureau. Elle ne pensait plus au maître. Maintenant, il a sa femme, se disait-elle. Mais cela me fera plaisir de voir madame et son installation. On dit que c'est très bien arrangé chez eux. Eugène ne l'avait pas revue depuis qu'il l'avait rencontrée avec l'enfant. Elle ne travaillait pas à la journée puisqu'elle devait garder son enfant et lui allait très rarement au village. Ce matin, veille de la Trinité, Eugène se leva à 5 heures du matin et partit dans les champs où l'on devait mettre des phosphates. Il sortit de la maison avant que les jeunes femmes y fussent entrées. Mais elles étaient dans la cuisine, près du fourneau, à chauffer l'eau. Heureux, content, très affamé, Eugène retourna pour le déjeuner. Il descendit de cheval près de la porte charretière, et ayant remis sa monture entre les mains du jardinier qui passait par là, en frappant de sa cravache l'herbe haute et répétant une phrase, comme cela lui arrivait souvent, il se dirigea vers la maison. La phrase qu'il répétait, c'était « Oh, les phosphates rendront !» Quoi, à qui, oh, il n'y songeait nullement. Dans la cour, on battait les tapis. Tous les meubles étaient sortis. Mon Dieu, quel nettoyage a fait Lise! Les phosphates rendront. Ah, voilà une maîtresse de maison. Oui, quelle ménagère, se disait-il. Et il se la représenta vivement, en robe de chambre blanche, avec ce visage rayonnant de bonheur qu'elle avait presque toujours quand il la regardait. Oui, il faut changer de botte, autrement. Bon, les phosphates rendront, c'est-à-dire ça sortira le fumier, et la patronne est dans une telle situation. Mais pourquoi est-elle dans une telle situation? Ah oui, là-bas grandit un nouveau petit Irtenieff, pensa-t-il. Oui, oh, les phosphates rendront. Et en souriant à ses pensées, il poussa la porte de sa chambre. Mais au même moment, la porte s'ouvrit, tirée de l'intérieur, et il se trouva nez à nez avec une femme qui en sortait, un seau à la main, la jupe retroussée, pieds nus, les manches haut relevées. Il s'écarta pour laisser passer la femme. Elle s'écarta aussi, en rajustant de sa main mouillée son fichu qui glissait. Bah, je ne passerai pas si vous, commença Eugène, mais tout d'un coup il s'arrêta. Il l'avait reconnue. Elle sourit les yeux, le regarda gaiement, et en tirant sa jupe, sortit. Quelle blague, mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est pas possible, se dit Eugène en fronçant les sourcils et chassant de la main, comme une mouche, une pensée importune, mécontent de l'avoir vue. Il était mécontent de l'avoir vue et en même temps, il ne pouvait détacher ses yeux de son corps balancé par sa démarche résolue, de ses pieds nus, de ses bras, de ses épaules, des plis gracieux de sa jupe rouge relevée au-dessus des mollets blancs. « Mais pourquoi est-ce que je regarde ?» se dit-il en baissant les yeux pour ne pas la voir. « Ben oui, il faut tout de même rentrer et prendre d'autres chaussures. » Il se dirigea vers sa chambre, et il n'avait pas fait 5 pas que, ne sachant lui-même comment, par quelle force, il se retourna pour la voir encore une fois. Elle tournait le coin, et au même moment, elle aussi se retourna de son côté. « Or, que fais-je ? » se dit-il, « elle peut penser. Oh oui, sûrement elle a déjà pensé. » Il entra dans la chambre mouillée. Une femme âgée, maigre, était là en train de laver. Eugène avança sur la pointe des pieds, entre les petites mares boueuses, jusqu'au mur où il ôta ses bottes. Il allait sortir quand la femme sortit aussi. Celle-ci s'en va et l'autre, Stepanida, viendra seule. Commença à résonner en lui quelqu'un. Mon Dieu, à quoi vais-je penser? Mais que fais-je? Il saisit ses bottes et, les tenant à la main, courut dans le vestibule, les déposa là, s'épousta et sortit sur la terrasse où déjà étaient assises les deux mamans prenant leur café. Lise, évidemment, l'attendait. Elle parut sur la terrasse d'une autre porte en même temps que lui. « Mon Dieu, elle qui me croit si honnête, si pure, si innocent, si elle savait, pensa-t-il. » Lise, comme toujours, le rencontra le visage rayonnant. Mais aujourd'hui, elle lui paraissait particulièrement pâle, jaune, longue et faible. Pendant le café, comme il arrive souvent, se déroula cette conversation particulière des dames, de laquelle est banni tout lien logique, mais qui, cependant, est liée par quelque chose, puisqu'elle se prolonge sans interruption. Les deux dames se lançaient des pointes, et Lise, très habilement, tâchait d'amortir les coups. « Oh, je suis désolé qu'on n'ait pas réussi à terminer ta chambre avant ton retour, » dit-elle à son mari. « J'ai un tel désir que tout soit bien arrangé. »« Eh bien, et toi, as-tu dormi après que j'ai été parti ?»« Oui, j'ai dormi, je me sens très bien. » Comment une femme peut-elle se sentir bien dans cette situation, pendant cette chaleur insupportable, avec des fenêtres au soleil encore sans rideaux ni marquise ? Dit Varvara Alexeyevna, la mère de Lise. Chez moi, il y a toujours des marquises. Oui, mais ici, on a déjà l'ombre à 10 heures du matin, remarqua Marie Pavlovna. C'est pourquoi il y a la fièvre, l'humidité, dit Varvara Alexeyevna, sans remarquer que c'était tout le contraire de ce qu'elle soutenait auparavant. Mon médecin dit toujours qu'on ne peut jamais définir la maladie sans connaître le tempérament du malade. Et il sait bien ce qu'il dit, car il est le premier docteur, et nous le payons 100 roubles. Mon mari, défunt, était contre les médecins, mais pour moi, il ne regardait jamais à la dépense. Mais comment un homme peut-il lésiner quand la vie de sa femme et celle de son enfant en dépendent peut-être ? Oui, quand on a les moyens, la femme peut être indépendante de son mari. Une bonne épouse obéit à son mari, dit Varvara Alexeyevna. Seulement, Lise est encore trop faible après sa maladie. Mais non, maman, je me sens très bien. Est-ce qu'on ne vous a pas encore donné de crème cuite ? N'en ai pas besoin, je puis me contenter de crème fraîche. J'ai demandé à Varvara Alexeyevna, elle a refusé, dit Marie Pavlovna, comme pour se justifier. Mais non, je n'en veux pas. Et comme pour mettre fin à une conversation désagréable, en cédant magnanimement, Varvara Alexeyevna s'adressa à Eugène. Eh bien, a-t-on mis des phosphates ? Lise courut chercher de la crème. Mais je n'en veux pas, je n'en veux pas. Lise, pas si vite, cria Maria Pavlovna. Ces mouvements rapides sont très mauvais pour elle. Oh, rien n'est mauvais quand il y a la tranquillité morale, déclara Varvara Alexeyevna, semblant faire allusion à quelque chose, bien qu'elle sût elle-même que ses paroles ne pouvaient faire allusion à rien. Lise revint portant la crème. Eugène prenait son café et écoutait taciturne. Il était habitué à de pareils entretiens, mais aujourd'hui, l'insanité de celui-ci l'irritait particulièrement. Il voulait réfléchir à ce qui lui était arrivé, et ce papotage l'en empêchait. Quand il eut terminé son café, Varvara Alexeyevna partit de mauvaise humeur. Quand Eugène, Lise et Marie Pavlovna se trouvèrent seules, la conversation devint simple et agréable. Mais très intuitive par l'amour, Lise remarqua aussitôt que quelque chose tourmentait Eugène et elle lui demanda si rien de désagréable ne lui était arrivé. Il n'était pas préparé à cette question et il s'embrouilla un peu en répondant qu'il ne lui était rien arrivé. Et cette réponse fit réfléchir Lise encore davantage. Le fait que quelque chose le tourmentait, et même le tourmentait beaucoup, était pour elle aussi évident que le fait qu'une mouche venait de tomber dans le lait. Mais il ne voulait pas dire ce qu'il avait. Mais qu'était-ce donc? Après le déjeuner, tous se séparèrent. Eugène, comme d'habitude, alla dans son bureau. Il se mit ni à lire ni à écrire des lettres, mais s'assit et commença à fumer une cigarette après l'autre en réfléchissant. Ce qui l'étonnait et l'attristait horriblement, c'était le sentiment mauvais qui, tout à fait inopinément, s'était manifesté en lui et dont il se croyait délivré depuis son mariage. En effet, depuis, il n'avait pas éprouvé une seule fois ce sentiment, ni pour Stepanida, ni pour n'importe quelle femme, hormis la sienne. Dans son âme, plusieurs fois, il s'était réjoui de cette délivrance, et voilà que tout d'un coup, par hasard, il reparaissait et lui révélait qu'il n'était pas affranchi. Maintenant, il était tourmenté, non de l'emprise nouvelle de ce sentiment, non du désir, à cela il ne voulait même pas penser, mais du fait qu'il était vivant en lui et qu'il fallait y prendre garde. Dans son âme, il n'y avait point de doute pour la victoire sur ce sentiment. Il devait écrire une lettre et rédiger un document. Il s'assit devant sa table à écrire et commença à travailler. Son travail terminé, ayant complètement oublié ce qui l'avait troublé, il sortit pour passer à l'écurie. Et de nouveau, comme par un fait exprès ou un hasard malheureux, à peine était-il sorti sur le perron que parut la jupe rouge, le fichu rouge, et en balançant les bras et se dandinant, elle passa devant lui. Non seulement elle passa, mais courut en le dépassant, comme si elle eût joué avec lui et rejoignit sa compagne. De nouveau s'offrirent à son imagination le midi brillant, les orties d'Anilo, la hutte du garde champêtre et dans l'ombre des platanes la bouche souriante qui mordillait des feuilles. « Non, c'est impossible de laisser cela ainsi, » se dit-il. Et ayant attendu que les deux femmes disparussent de sa vue, il alla au bureau. Il était juste midi et il espérait trouver son gérant. Il était là. Il venait de s'éveiller. Il s'étirait en bâillant et regardait le gardeur de bétail qui lui disait quelque chose. « Vassili Nikolaïevitch, que désirez-vous ? J'ai besoin de vous parler. » À vos ordres, mais d'abord terminé. Est-ce que tu n'apporteras pas ? Demanda Vassili Nikolaïevitch au gardeur de bétail. Ben, c'est lourd, Vassili Nikolaïevitch. Qu'y a-t-il ? Demanda Eugène. Ben voilà, une vache à mi-bas dans les champs. Eh bien, c'est bon, je vais donner l'ordre d'atteler un cheval. Dis à Nicolas de prendre le fardier. Le gardeur de bétail sortit. Voyez-vous, commença Eugène en rougissant et le sentant, voyez-vous, Vassili Nikolaïevitch, que quand j'étais encore célibataire, j'avais une liaison. Peut-être avez-vous entendu. Vassili Nikolaïevitch sourit des yeux, évidemment, pris de compassion pour son maître, dit ah, c'est à propos de Stepanida. Oui, c'est ça. Alors voilà, je vous prie de ne pas la prendre pour travailler à la journée dans la maison. Vous comprenez, cela m'est très désagréable. Ben, c'est probablement Ivan, l'employé, qui aura donné cet ordre. Ben alors, c'est entendu. Eh bien, qu'en pensez-vous? Faut-il mettre tout le reste, Diogène, pour cacher sa confusion? J'y vais précisément à l'instant. Bon, allons terminer cela. Diogène se tranquillisa, espérant que, puisqu'il était déjà resté une année sans la rencontrer, il en serait encore de même. En outre, Vassili Nikolaïevitch va en parler à l'employé. Celui-ci en parlera à Stepanida et elle comprendra que je ne veux pas cela, se disait Eugène, et il se réjouissait d'avoir eu le courage de s'ouvrir à Vassili Nikolaïevitch, quelque difficile que cela fût pour lui. Oui, tout vaut mieux, tout, plutôt que ce doute, cette honte. Il tressaillait au seul souvenir de ce crime de sa pensée. L'effort moral fait pour vaincre sa honte et dire à Vassili Nikolaïevitch ce qu'il lui avait dit avait calmé Eugène. Il lui sembla que maintenant tout était terminé, et Lise remarqua aussitôt qu'il était revenu tout à fait calme et même plus joyeux qu'à l'ordinaire. Ben, il était probablement attristé de ces querelles entre nos mères. En effet, avec sa sensibilité, son noble caractère, il est particulièrement pénible d'entendre toujours ces allusions hostiles et de mauvais goût, pensait Lise. Le temps était beau. Les femmes, suivant l'habitude, en allant au bois pour tresser des couronnes de fleurs, s'approchèrent du perron de la maison seigneuriale et se mirent à danser et à chanter. Maria Pavlovna et Varvara Alexeyevna, en robes élégantes, tenant leurs ombrelles, sortirent sur le perron et s'approchèrent de la ronde. L'oncle, un débauché, un ivrogne, qui passait l'été chez Eugène, les suivait en petit veston chinois. Comme toujours, il y avait un grand cercle bigarré de couleurs vives, de jeunes femmes, de jeunes filles, et ce cercle était le centre de tout. Autour de ce cercle, de différents côtés, comme des planètes qui se sont détachées et tournent autour de l'astre principal, tantôt des petites filles, se tenant par la main, faisaient froufrouter leurs jupes neuves d'indienne, tantôt de jeunes garçons, qui riaient à quelque chose, se poursuivaient et s'attrapaient les uns les autres, tantôt des garçons plus âgés en polyovka bleu et noir, bonnets et blouses rouges, passaient en faisant craquer sans répit des grains de tournesol, tantôt c'étaient des domestiques ou des étrangers qui, de loin, regardaient la ronde. Les deux dames s'approchèrent du cercle même, et après elles, Lise en robe bleue, un ruban de même couleur dans les cheveux, ses bras longs, blancs, aux coudes pointus, émergeant des larges manches. Eugène n'avait point envie de sortir, mais il eût été ridicule de se cacher. Il sortit donc sur le perron, la cigarette aux lèvres, salua les garçons et les paysans et causa avec l'un d'eux. Les femmes, pendant ce temps, chantaient à plein gosier les motifs de la danse, frappaient des mains et dansaient. « Madame vous appelle !» dit un domestique en s'approchant d'Eugène, qui n'entendait pas que sa femme l'appelait. Lise l'appelait pour regarder danser une des femmes dont la danse lui plaisait particulièrement. C'était Stepanida. Elle était en jupe jaune, le corsage sans manches, en fichu de soie, plantureuse, énergique, rouge, gaie. Elle dansait sans doute très bien, mais il ne remarqua rien. « Oui, oui, » fit-il en ôtant et remettant son pince-nez. « Oui, oui. Oh, ainsi je ne puis pas me débarrasser d'elle, pensa-t-il. Il ne la regardait pas parce qu'il avait peur de son charme. Et précisément à cause de cela, ce qu'il apercevait d'elle à la dérobée lui paraissait particulièrement attrayant. En outre, il devinait à son regard brillant qu'elle le voyait et savait qu'il l'admirait. Il resta juste ce qu'il fallait pour ne pas paraître impoli, et s'étant aperçu que Varvara Alexeïevna l'appelait et le qualifiait avec affectation et fausseté de « chéri », se détourna et s'en alla. Il s'en alla et retourna à la maison. Il s'en allait pour ne pas la voir, mais, montant à l'étage supérieur, sans même savoir pourquoi et comment, il s'approcha de la fenêtre et y demeura tant que les femmes restèrent près du perron, la regardant et la buvant des yeux. Il s'enfuit avant que personne ait pu l'apercevoir et, sans bruit, sortit sur le balcon. Là, il alluma une cigarette et, comme pour se promener, alla au jardin dans la direction qu'elle suivait. Il n'avait pas fait deux pas dans l'allée quand, à travers les arbres, il aperçut le corsage sans manches sur un fond rose et le fichu rouge. Elle allait quelque part avec une autre femme, mais où allait-elle? Et tout d'un coup, le désir terrible, brûlant, lui saisit le cœur comme avec la main. Eugène, comme s'il obéissait à une volonté étrangère à lui, se retourna et se dirigea vers elle.
Eugène Ivanovitch, Eugène Ivanovitch, j'ai une grâce à vous demander, prononça derrière lui une voix, et Eugène aperçut le vieux Samochine employé à creuser un puits chez lui. Il se ressaisit et, se détournant brusquement, se dirigea vers Samochine. Quand ils eurent fini de causer, il tourna la tête et aperçut les deux femmes en bas, se dirigeant évidemment vers le puits ou prenant cette direction comme prétexte. Mais elles ne restèrent pas longtemps et retournèrent à la ronde. Quand il quitta Samochine, Eugène retourna à la maison, abattu comme s'il eût commis un crime. Premièrement, elle l'avait compris, elle pensait qu'il désirait la voir et elle désirait la même chose. Deuxièmement, l'autre femme, Anna Prokhorovna, évidemment, savait tout cela. Et le principal, il se sentait vaincu. Il savait qu'il n'avait plus sa volonté, qu'il était poussé par une autre force, qu'il avait échappé aujourd'hui par miracle, mais que demain, après-demain, il succomberait. Oui, il était perdu. Il ne le comprenait pas autrement. Trahir sa jeune femme aimante à la campagne, avec une paysanne au-dessus de tous. Mais n'était-ce pas la perte terrible après laquelle on ne peut plus vivre? Oh non, 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 il faut prendre des mesures. Mon Dieu, mais que me faut-il faire? Vais-je périr ainsi? Se disait-il. N'y a-t-il donc rien à faire? Il faut cependant faire quelque chose, ne pas penser à elle. Ne pas penser. Et aussitôt, c'était à elle qu'il pensait. Il la voyait devant lui, dans l'ombre des platanes. Il se rappela avoir lu l'histoire d'un vieillard qui, pour échapper à la séduction d'une femme à laquelle il devait imposer la main, pour la guérir, plaçait son autre main sur un réchaud ardent. « Oh oui, je suis prêt à me brûler la main plutôt que de succomber. » Et regardant autour de lui, constatant qu'il était seul dans la chambre, il enflamma une allumette et en approcha ses doigts. « Eh bien, pense à elle maintenant, » se dit-il ironiquement. Sentant la brûlure, il retira ses doigts noircis, jeta l'allumette et riant de soi. Mais quelle bêtise! C'est pas ça qu'il faut faire. Faut prendre des mesures pour ne plus l'avoir. Partir ou l'éloigner. Oui, l'éloigner. Donner de l'argent à son mari pour qu'il s'installe dans un autre village. On le saura. On parlera. Oh bien, cela vaut mieux. Tout plutôt que ce danger. Oui, il faut faire cela, se disait-il, sans la quitter des yeux. Où va-t-elle ? Se demanda-t-il tout à coup. Il lui sembla qu'elle l'avait aperçu près de la fenêtre, et après avoir jeté un regard sur lui, elle s'en allait bras dessous avec une femme quelconque, et se dirigeait vers le jardin en balançant son bras libre. Ne sachant lui-même pourquoi, Eugène prit le chemin de son bureau. Vassili Nikolaïevitch, en redingote neuve, pommadée, prenait le thé avec sa femme et une invitée en châle tapis. Dis-moi, Vassili Nikolaïevitch, puis-je vous entretenir un instant ? Oh, s'il vous plaît, nous avons terminé. Non, allons plutôt dehors. À tout de suite. Ma casquette, Ania. Et mets le couvercle sur le samovar, dit Vassili Nikolaïevitch en sortant, l'humeur joyeuse. Eugène crut s'apercevoir que Vassili Nikolaïevitch avait bu un peu, mais tant pis. Et puis c'était peut-être mieux ainsi, il envisagerait peut-être avec plus de sympathie sa situation. Voilà, Vassili Nikolaïevitch, je voudrais de nouveau vous parler de cette femme. Mais qu'y a-t-il ? J'ai donné l'ordre de ne plus la reprendre. Mais non, j'ai pensé, en général, et c'est de quoi j'ai voulu vous parler et vous demander conseil, ne pourrait-on pas éloigner toute la famille ? Ben où les éloigner ? Demanda Vassili Nikolaïevitch d'un air où Eugène crut remarquer du mécontentement et de l'ironie. J'ai pensé, on pourrait leur donner de l'argent ou même de la terre à Olskovskoye, pourvu qu'elle ne soit pas ici. Ben comment les éloigner ? Comment les arracher de leur terre ? Mais qu'est-ce que cela vous fait ? En quoi vous gêne-t-elle ? Vassili Nikolaïevitch, comprenez donc que ce serait terrible si ma femme apprenait. Mais qui lui dira ? Et comment vivre avec cette pensée ? Et en général, c'est pénible. De quoi vous inquiétez-vous ? Quiconque se rappellera des fautes anciennes aura l'œil crevé et qui n'a pas péché devant Dieu n'est pas coupable devant le tsar. Non, tout de même, il serait mieux de les éloigner. Ne pourriez-vous pas en causer avec son mari ? Mais il n'y a point à causer. Oh, Jean Ivanovitch, pourquoi vous fourrez tout cela en tête ? C'est passé, oublié. Tout arrive, et maintenant qui oserait dire de vous quelque chose de mal ? Malgré cela, parlez-lui. Je lui parlerai, bien que je sois convaincu qu'il n'en sortira rien. Cette conversation calma un peu Eugène. Surtout, il sentait qu'à cause de son émotion, il exagérait le danger. Est-ce qu'il était allé à un rendez-vous avec elle ? Mais non ! Il allait tout simplement se promener dans le jardin. Et par hasard, elle y était venue. Le jour de la Trinité, après le dîner, Lise, qui se promenait dans le jardin, en voulant franchir un petit fossé pour aller dans une prairie où son mari voulait lui montrer le trèfle, fit un faux pas et tomba. Elle tomba doucement sur le côté, fit un « Ah !» et sur son visage, son mari aperçut non seulement une expression de peur, mais de souffrance. Il voulut la relever, elle l'écarta de la main. « Non, Eugène, attends un peu, » dit-elle en souriant faiblement. Et comme il lui semblait, en le regardant d'un air coupable, « Non, c'est tout simplement mon pied qui a tourné. » Voilà, il y a longtemps que je l'ai dit, dans une pareille situation, est-ce qu'on peut sauter les fossés ? Reprochait Varvara Alexeïevna. Mais non, maman, ce n'est rien. Je vais me relever tout de suite. Elle se releva avec l'aide de son mari, mais au même moment, elle pâlit et l'effroi se peignit sur son visage. Oh, oui, je ne me sens pas bien, lui chuchota-t-elle pour que sa mère n'entendît point. « Oh, mon Dieu, qu'a-t-on fait ? Je disais de ne pas marcher !» criait Varvara Alexeïevna. « Attendez, j'enverrai des gens. Elle doit pas marcher, il faut la porter. »« Tu n'as pas peur, Lise. »« Je te porterai, » dit Eugène en passant autour de sa taille son bras gauche. « Prends-moi par le cou, tiens, comme ça. » Et s'inclinant, il lissa son bras droit en dessous des jambes et la souleva. Jamais il n'oublia l'expression de souffrance et en même temps de bonheur qui se reflétait en ce moment sur son visage. « Ce n'est pas trop lourd, chérie ?» lui demanda-t-elle en souriant. « Maman qui court, regarde !» Elle se pencha vers lui et l'embrassa. Elle désirait visiblement que sa mère vît comment il la portait. Eugène cria à Varvara Alexeïevna de ne point se hâter, qu'il la porterait très bien. Varvara Alexeïevna s'arrêta et se mit à crier encore plus fort. « Mais tu la laisseras tomber, c'est sûr. Tu veux la tuer, t'as pas de conscience. Mais je la porte très bien. » « Je ne veux pas, je ne puis pas voir comment tu tueras mon enfant !» Et elle s'enfuit au bout de l'allée. « Oh, ce n'est rien, ça passera, » dit Lise en souriant. « Pourvu seulement qu'il n'y ait pas de suite comme l'autre fois. »« Non, 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 ce n'est pas de cela que je voulais parler. Je parlais de maman. »« Allez, tu es fatiguée, repose-toi. » Bien que son fardeau fût lourd, Eugène, avec une fière joie, le porta jusqu'à la maison, sans vouloir le remettre à la femme de chambre et au cuisinier que Varvara Alexeïevna avait trouvé et envoyé à leur rencontre. Il la porta jusqu'à sa chambre à coucher et la déposa sur son lit. « Eh bien, va-t'en, » dit-elle, et attirant sa main, elle la baisa. « Nous nous arrangerons avec Annouchka. » Marie Pavlovna était aussi accourue du pavillon. On déshabilla Lise et on la mit au lit. Eugène était assis au salon, un livre à la main, et attendait. Varvara Alexeïevna passa devant lui avec un air si morne et si plein de reproches qu'il en fut terrifié. « Eh bien, qu'y a-t-il ? Demanda-t-il. Ben, ce qu'il y a, pourquoi le demander ? Ce que probablement vous désiriez quand vous avez forcé votre femme à sauter à le fossé. Varvara Alexeïevna, s'écria-t-il, c'est intolérable. Si vous voulez tourmenter les gens et empoisonner leur existence. Il allait dire eh bien, allez ailleurs, mais il se retint. Mais comment n'avez-vous pas honte d'agir ainsi ? « Maintenant, c'est tard !» Et elle franchit la porte en secouant victorieusement son bonnet. La chute, en effet, était assez mauvaise. Le pied avait tourné gauchement et une fausse couche était à craindre. Tous savaient qu'il n'y avait rien à faire et qu'il ne fallait que la laisser reposer tranquillement. Toutefois, on décida d'envoyer chercher le médecin. Bien estimé, Nicolas Stepanovitch, écrivait Eugène au médecin, vous fîtes toujours si bon pour nous que j'espère que vous ne refuserez pas de prêter votre assistance à ma femme, elle, enfin, etc., etc. Sa lettre écrite, il alla à l'écurie donner des ordres pour les chevaux et la voiture. Il fallait préparer des chevaux pour aller chercher le médecin, d'autres pour le ramener, et tout cela devait être bien combiné. Quand il eut tout décidé, expédié le cocher, il retourna à la maison. Il était environ 10 heures du soir. Sa femme était couchée et disait qu'elle se sentait très bien, que rien ne lui faisait mal. Varvara Alexeyevna, assise devant la lampe, cachée de lys par une pile de morceaux de musique, tricotait une grande couverture rouge, et son air disait clairement qu'après ce qui s'était passé, la paix ne pouvait exister. Les autres peuvent faire n'importe quoi, moi du moins j'ai fait mon devoir. Eugène voyait cela, mais feignant de ne pas le remarquer. Et il raconta d'un ton gai et dégagé qu'il avait envoyé les chevaux et que la jument Kavushka allait très bien comme cheval de volée du côté gauche. « Naturellement, le moment est bien choisi pour essayer les chevaux, quand on a besoin d'un secours immédiat. On versera probablement le docteur aussi dans un fossé, » dit Varvara Alexeyevna, en regardant attentivement à travers un lorgnon son tricot qu'elle avait approché très près de la lampe. Mais de toute façon, il fallait envoyer chercher. Moi, j'ai fait ce que j'ai cru le mieux. Je me rappelle très bien comment vos chevaux ont failli me jeter sur un perron. C'était son invention, qui datait de longtemps. Mais cette fois, j'ai eu l'imprudence de dire que les choses s'étaient passées pas tout à fait comme elle le prétendait. Ce n'est pas en vain que je dis toujours, et combien de fois l'ai-je dit au prince, que rien n'est plus pénible que de vivre avec des gens injustes et faux. Je supporterai tout, mais pas cela. Si c'est pénible pour quelqu'un, c'est surtout pour moi, dit Eugène. Oui, cela se voit.
Quoi ?
Rien, je compte les mailles.
À ce moment, Eugène se trouvait près du lit. Lise le regardait. D'une de ses mains moites qui étaient sur la couverture, elle lui saisit la main et la serra.
« Supporte-la pour moi, elle ne nous empêchera pas de nous aimer, » disait son regard.
« Oh, je ne ferai rien, » lui murmura-t-il en baisant sa longue main timide, puis ses beaux yeux qui se fermèrent sous son baiser.
« Sera-ce encore la même chose ?» demanda-t-il. « Comment te sens-tu ? »
« C'est terrible de se tromper, mais j'ai le sentiment qu'il vit et vivra, » dit-elle en regardant son ventre.
« Oh, c'est terrible même à penser. »
Malgré l'insistance de Lise pour qu'il s'en allât, Eugène passa la nuit près d'elle, ne dormant que d'un œil, et prêt à chaque instant à lui donner ses soins. Mais la nuit fut très bonne. Et si on n'en avait pas attendu le médecin, peut-être se fût-elle levée. Le docteur arriva au moment du dîner. Il expliqua que si des accidents identiques peuvent provoquer le danger, il n'y a pas toutefois d'indication positive et que par conséquent, en l'absence d'indication contraire, on pouvait faire telle hypothèse ou telle autre. La conclusion était qu'il fallait rester couché et prendre telle et telle chose, bien que le docteur se déclara l'ennemi des drogues. En outre, il fit à Varvara Alexeyevna une véritable conférence sur l'anatomie de la femme,
et elle l'écoutait en hochant la tête avec importance. Ayant reçu ses honoraires, glissés comme d'ordinaire dans le creux de sa main, le docteur partit et la malade resta couchée pour une semaine. Eugène passait la plus grande partie de son temps près du lit de sa femme, la soignait, causait avec elle, lui faisait la lecture, et, chose plus méritoire, supportait sans mot dire les piqûres de Varvara Alexeïevna, dont il savait même faire un objet de plaisanterie. Mais il ne pouvait rester toujours à la maison. D'abord, sa femme le renvoyait, disant qu'il tomberait malade s'il restait tout le temps auprès d'elle. Ensuite, l'exploitation nécessitait fréquemment sa présence. Il ne pouvait rester à la maison et aller alors tantôt dans les champs, tantôt dans le bois, tantôt au jardin, tantôt dans la grange, et partout non seulement la pensée, mais l'image vivante de Stepanida le poursuivait, de sorte qu'il ne parvenait que rarement à l'oublier. Cela n'était rien encore. Peut-être eût-il pu vaincre ce sentiment. Mais le pire de tout, c'est que lui, qui, auparavant, demeurait des mois sans la voir, maintenant la rencontrait à chaque instant. Évidemment, elle avait compris qu'il désirait renouer les relations anciennes, et elle tâchait de le rencontrer. Mais comme ni l'un ni l'autre n'avait rien dit, il n'y avait donc pas rendez-vous, il faisait seulement en sorte de se rencontrer. Le meilleur endroit pour cela était le bois où les femmes allaient avec des sacs chercher de l'herbe pour les vaches. Eugène savait cela, et chaque jour il passait devant le bois. Chaque jour, il se disait qu'il n'irait pas, et chaque jour, il se dirigeait vers le bois, écoutait le son des voix, et s'arrêtait avec un battement de cœur derrière un buisson, épiant si ce n'était pas elle. Quel besoin avait-il de savoir si c'était elle? Il ne le savait pas. Si c'eût été elle, et même seule, il ne fût pas allé à sa rencontre, à ce qu'il pensait. Il l'eût fui, mais il avait besoin de la voir. Une fois, il la rencontra. Comme il allait rentrer dans le bois, elle en sortit avec deux autres femmes, un lourd sac plein d'herbes sur le dos. Un instant plus tôt, et peut-être l'eût-il rencontré dans le bois. Tandis que maintenant, il lui était impossible, devant les autres femmes, d'y retourner avec lui. Malgré cette impossibilité dont il se rendit compte longtemps, au risque d'attirer l'attention des autres femmes, il se tint derrière le buisson de noisetiers. Naturellement, elle ne retourna point, mais il resta là assez longtemps. Mon Dieu, avec quels attraits son imagination la lui présentait! Et ce n'était pas une fois, mais 5, 6 fois, et chaque fois plus fortement. Jamais ne lui avait paru aussi attrayante et jamais elle ne l'avait possédée aussi entièrement. Il sentait qu'il n'était plus maître de soi, qu'il devenait presque fou. Sa sévérité pour lui-même ne faiblissait point. Au contraire, il se rendait compte de toute la monstruosité de ses désirs, même de ses actes, car ses attentes dans le bois étaient des actes. Il savait qu'il lui suffirait de la rencontrer quelque part, dans un lieu sombre, de la toucher pour qu'il s'abandonnât à sa passion. Il savait que seule la honte devant les gens, devant elle, et probablement devant soi-même, le retenait. Et il savait qu'il cherchait les conditions dans lesquelles cette honte ne serait pas remarquée, l'obscurité ou un attouchement, qui étoufferait en lui cette honte par la passion bestiale. Il se regardait donc comme un immonde criminel et se méprisait, se haïssait de toutes les forces de son âme. Il se haïssait parce qu'il ne cédait pas encore. Chaque jour, il priait Dieu de le fortifier, de le sauver de la perte. Chaque jour, il décidait de ne plus faire un seul pas, de ne plus la regarder, de l'oublier. Chaque jour, il imaginait des moyens pour se débarrasser de cette obsession et les mettait en pratique. Mais tout était inutile. Un des moyens était de s'occuper sans cesse, un autre le travail physique et le jeûne, un troisième l'analyse claire de la honte qui devait retomber sur sa tête quand tous, et sa femme et sa belle-mère, sauraient cela. Il faisait tout cela et il lui semblait vaincre, mais arrivait midi, l'heure de leurs anciens rendez-vous, l'heure à laquelle il la rencontrait avec son sac d'herbe, et il allait dans le bois. Ainsi s'écoulèrent 5 pénibles journées. Il ne la voyait que de loin et pas une fois ne s'approchait d'elle.